بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Mes chers frères, toutes les louanges proviennent à Allah Rabbu al-Izzah qui nous permet de consacrer un peu de temps après la surat al-Isha pour étudier le tafsir donc de la surat al-Insan qu'on a commencé depuis quelques temps. Et ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la définition, les qualités de Inna al-Abrar. Yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura. On a les pieux et on a ceux qui vont se distinguer dans le paradis. Aynan yashrabu biha ibadullah. Les serviteurs d'Allah, ceux qui sont proches d'Allah, eux, ils vont boire de cette boisson du paradis directement. Et après avoir cité cette grande récompense, notre Seigneur Rabbul Izzah nous révèle les qualités de ces croyants qui ont obtenu ce grade auprès d'Allah Rabbul Izzah. Et c'est là qu'on est attentif parce que nous écoutons, nous étudions, nous essayons de comprendre et de mettre en application ces qualités de notre vie. On avait vu comme première qualité le système de clim, c'est quoi, hein? C'est que ça s'éteint tout seul. Ce qui fait super froid en fait. Hein? C'est... Moi je suis gelé, ce qui en habitude. Enfin bref. Alhamdulillah, c'est un ni'ma, mais quand la salle est pleine, c'est bien. Mais là, il fait vraiment très froid. Khair, inshallah. Je disais donc, on avait vu, oui, yufuna bin nadri, le fait que ce soit des gens qui respectent leur engagement quand ils font une promesse à Allah. Et ce qu'il fallait comprendre de ce verset, c'est que ils vont respecter les engagements qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, qui n'étaient pas obligatoires à la base. Ce qui veut dire que lorsque ce sont des obligations qui viennent d'Allah, assurément, ils sont les premiers à répondre présent. Et on a vu également que la deuxième qualité, la crainte permanente de l'au-delà. On avait dit qu'on ne peut pas être croyant, on ne peut pas accomplir correctement les bonnes actions, on ne peut pas rester éloigné avec fermeté de tous les péchés si on ne met pas en avant la crainte du jour on retournera auprès d'Allah. D'où le verset « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ». Ça, c'est le plus important. Qu'à chaque moment, chaque instant de ta vie, tu crains le jour où tu seras ramené auprès d'Allah. Parce que quand on est ramené auprès d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Allah nous interroge à propos de quoi? De nos bonnes actions, mais également de nos péchés. Et puis, il y a, au-delà des comptes, hein, des hisab, il y a d'autres hadiths, je ne vais pas sortir du sujet, même si ça fait partie du sujet, que le jour de Qiyam, nous serons tous interrogés à propos de certains bienfaits. Et entre autres, la santé. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Ta jeunesse. Hein, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Et ainsi de suite, ces grands bienfaits qu'Allah Rabbul Izzah nous rappellera le jour des comptes. Naam. Bon, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on avait un petit peu amorcé. J'ai lu la traduction? Non, j'ai lu la traduction. On est donc au verset numéro 8 et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et donc, on avait vu que bon, la traduction, elle est ambiguë, hein, ne reflète pas surtout le terme malgré son amour. Voilà, on a besoin d'expliquer. Ce qu'on avait dit un petit peu la dernière fois en introduisant ce verset, ce sont des personnes qui donnent à manger aux gens. Et ça, c'est une action qui est intrinsèque, ça c'est propre à l'islam, c'est quelque chose qui est essentiel. Quand nous étudions, je suis congelé jusqu'aux os. Khair, inshallah. Quand nous étudions, c'est, mashallah, en plein été, subhanallah, on est à une époque exceptionnelle, on peut trembler de froid en plein été. Il doit faire 32 ans, alhamdulillah. Je disais donc, qu'est-ce que je disais avant de... Khair, inshallah. Je disais que j'ai froid. Oui, donner à manger. Ce qui me rappelle que je n'ai pas mangé aussi, donc... Sans manger, et en plus il fait froid, ça ressemble à l'hypoglycémie, mais ce n'est pas l'hypoglycémie. Khair, inshallah. Donner à manger aux gens, ça fait partie des actions essentielles de l'islam. C'est indissociable de notre dîn. On a dans la sourate Al-Baqarah, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Parmi les premières qualités des pieux, de ceux qui sont aimés par Allah, qui donnent de ce que nous leur avons octroyé. Allah te donne, c'est pas pour tout garder pour toi. Allah te donne, distribue, donne aux gens. Donne, et principalement, donner, si on peut laisser une porte ouverte, laisser ouverte, parce que moi, l'air fera s'évacuer un petit peu. Hein, ok. Et donc, on disait, donner à manger aux gens de façon plus spécifique, c'est encore plus important et plus profitable que de donner de l'argent. Zakallah khair. Non, ça va aller, Inch'Allah. Dans un hadith, il est rappelé, non, on reste concentré, excusez-moi, j'ai trop parlé du froid, on reste concentré sur le tafsir. Le prophète, alayhi salat wa salam, Allah ybarik, Allah ybarik. Je ne suis pas très écologique en temps normal. Là, je pense que je vais le devenir. Quand le prophète alayhi salat wa salam est arrivé à Madina Munawwara, il a rappelé aux gens de Madina des actions qui vous permettront d'accéder au paradis avec grande facilité. Parmi ces deux actions, prier le soir lorsque les gens dorment. Très facile à dire. Très compliqué à mettre. Enfin, très compliqué. Je n'ai pas le droit de dire que c'est compliqué, mais c'est un grand sacrifice, ça. C'est un grand sacrifice. Ah, Sajjad ou Sajid? Sajid. Sajjad, c'est le petit qui vient le mardi soir. Sajid. Si tu te réveilles à 3h du matin, tout d'un coup, comme il dit en créole, le sommeil, il casse. D'accord? Sommeil, il casse, 3h du matin, tu regardes l'heure. Vous savez, un grand bonheur, hein, c'est quand on se trompe dans l'heure. On croit qu'il est 5h, ben, tu te réveilles, mais il est 4h. Tu dis, ah, Allah Akbar, encore une heure de temps. Ça, c'est un madja, ça. Mais c'est bête de dire ça, c'est un madja. La bonne réaction du croyant, tu te réveilles, il est 4h du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Allah qui te permet d'être réveillé à 4h, tu as encore le subh al-sadiq, avant le subh al-sadiq, tu peux prier le tahajjud qiyam al-layl. Tu lis les doigts que le prophète sallam lisait. Lorsqu'il se réveillait dans la nuit, il s'asseyait, si vous me permettez une parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses. Par la grâce d'Allah, j'ai accompli la Umrah pendant le mois de janvier, j'ai pu faire 3 jours à Madina. Et un des soirs où j'étais à Madina Munawwara, j'assistais à un dars d'un cher, un jeune cher, je ne connais pas son nom, je ne connais pas, c'est un jeune, mais le dars était magnifique, ça parlait d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui était resté une nuit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel but? Pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa nuit, comment étaient ses prières. Et là il raconte, c'est très beau, c'était très beau. Et en plus, entendre ça dans la masjid Nabawi. Tu sais que, enfin là on était assis, c'est que la maison du prophète sallam est à gauche et c'était là que ça se déroulait. C'est vraiment puissant, c'est magique, c'est magique. C'est pour ça que quand on va à Madina, c'est pour les ibadas, l'adoration, etc. Mais quand il y a des durous, des muhadara, essayez d'assister. Vous avez vu, mais c'est en arabe. Apprenez l'arabe. C'est important. Et même si on n'a pas pu apprendre l'arabe, ne serait-ce d'être présent dans une assemblée religieuse et se dire qu'à cet endroit, le prophète peut-être a fait une explication au sahaba, Abu Bakr al-Siddiq s'est adressé au sahaba, et ainsi de suite, ça apporte quelque chose. Je ferme cette parenthèse. Et donc, lire les doigts que le prophète lisait quand il se réveillait dans la nuit, et ensuite, faire les ablutions. Et le cheikh avait précisé, enfin, il avait expliqué le hadith, que « وَتَوَضَّعَ وُضُوءًا خَفِيفًا » Le prophète a fait des ablutions, mais très vite, très rapidement. Les ablutions, il lave les parties, tout ce qui est le gargarisme, le nez, le visage, ainsi de suite, mais sans s'attarder. Et c'est là que je me suis dit, je me fais un parallèle, quand nous on fait wuzu, une fontaine d'eau. Parfois il y a des gens quand ils font wuzu, c'est une parenthèse mais elle est importante, ils ouvrent le robinet très fort et avant même de commencer à se retrousser les manches et à tirer le bonnet, l'eau il coule. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est khilaf as-sunna et c'est un péché, c'est du gaspillage. Puis pour faire les ablutions, t'as pas besoin que l'eau coule énormément. On ouvre l'eau, bref, on économise un petit filet d'eau et on laisse les mains plus longtemps dessous. Ça fait partie des enseignements. Donc le prophète faisait les ablutions, c'était wudu an khafifan, un wudu vite fait, mais bien fait. C'est pas parce que tu laves, tu frottes et tu On t'a demandé, la sunna c'est 3 fois, pas besoin d'aller plus loin que ça. Le wuzu est accompli. Pas parce qu'il y a beaucoup plus d'eau que le wuzu est de meilleure qualité. Bil'ax. Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Ceux qui gaspillent, ce sont les frères du diable. Et le professeur nous a donné comme conseil également, quand on fait les ablutions, d'économiser de l'eau. Walau kunta, le sens du hadith, ala nahrin jarin. Qui traduit ça? Et même si tu es près d'un fleuve qui coule, on fait les ablutions près d'un fleuve, une rivière. Vous êtes en pique-nique, je ne sais pas, Grand-Anse ou je ne sais pas quel endroit, il y a une rivière, vous faites les ablutions, vous avez dit, oui, mais c'est de la rivière, il y a quantité. Non, même ça, tu n'as pas le droit de gaspiller. Tu prends la quantité qu'il faut. Pour qu'on comprenne l'importance d'économiser de l'eau. Et ça, c'est les principes maintenant que les écologistes mettent en avant. Ça, le professeur nous a enseigné depuis Allahu Akbar, depuis la révélation. Naam. Parenthèse est fermée. On remonte. Donc, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu fais tes ablutions, tu lis le doigt, tu fais tes ablutions, tu fais le qiyam ul-layl. Ça, c'est un grand bienfait. Et ça fait partie des qualités que le professeur m'a citées pour entrer au paradis bisalam, en paix, avec grande tranquillité. Qui c'est qui peut dire que là, en ce moment, mon cœur est bisalam, j'ai la tranquillité du cœur. Le tama'nina, comme il dit en ourdou, tien, il y a 50 mots pour le dire. Non. On a tous des soucis. On a tous des soucis, des motifs d'angoisse. Ça peut être un problème de santé, un problème familial. Ça peut être les impôts qui sortent. Ça peut être la facture, les 10% en plus d'électricité qui va augmenter ce mois-ci, à partir de février. Hein, on va bien déguster, et ainsi de suite. On a tous des soucis, des motifs d'inquiétude. C'est-à-dire que dans ce dunya, personne, hatta al-muluk, ou abna al-muluk, même les rois, les fils de rois, ceux qui sont le plus comblé financièrement, personne ne peut dire que j'ai le cœur apaisé, je vis tranquillement. C'est impossible. L'objectif, c'est d'entrer au paradis sans stress, sans anxiété. Et là, il y a un côté un petit peu, j'utilise un mot, mais je pèse le mot paradoxal, mais ce n'est pas le mot que je dois utiliser. Parce qu'on connaît les ahwal de l'au-delà. On connaît les difficultés du qiyama. Le qiyama n'est pas un endroit où normalement on est tranquille, on est apaisé. Mais le prophète te garantit tadkhuluna al-jannata abis-salam. Tu rentres au paradis en paix. Et tu rentres au paradis avec grande aisance, sans crainte, avec facilité. Ajib, cette promesse du prophète sallam, parmi les deux actions que le prophète a citées, c'est ceux qui prient la nuit alors que les gens dorment. Et l'autre action, c'est en rapport avec le verset qu'on vient de voir, c'est pour ça qu'on l'a cité. Hein, c'est quoi, Ajid?
Donner à manger
aux gens. Parmi les qualités pour entrer au paradis avec facilité, donner à manger aux gens. Donc ça, c'est une action qui est propre à l'islam et c'est un message qui existe depuis le début de la révélation. Et si on regarde, quel est le prophète avant le prophète sallam, qui est vraiment notre prophète de référence? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Et parmi les qualités d'Ibrahim alayhi salam, j'écoutais un élève réciter il y a deux jours, et je me suis dit que subhanallah, dans le même verset, wa idh bawwa'na li Ibrahima maqam al-bayt, il a akhir al-ayah, deux fois, Ibrahim alayhi salam parle de la salah, rabbana liyuqimu as-salah. C'est-à-dire que dans le millat Ibrahim, dans la tradition d'Ibrahim alayhi salam, qui est le père des prophètes, c'était parmi les actions essentielles la salah. Qui nous a été donc enseigné par Ibrahim alayhi salam, qui a été repris par Moussa alayhi salam, et que notre prophète nous a enseigné comment est-ce qu'un croyant peut délaisser la salah. C'est inimaginable. Délaisser la salah, c'est désobéir à Allah et à son prophète, mais également aller à l'encontre de toutes les prophéties. Parenthèse fermée, on revient donc parmi les qualités d'Ibrahim alayhi salam, il donnait à manger aux gens. Vous connaissez l'histoire quand il y a des anges qui sont venus et ainsi de suite, d'accord, pour aller vers notre peuple. Bref, Ibrahim alayhi salam recevait les gens. Il avait l'habitude de recevoir les voyageurs. Et je suis en train de chercher le verset en même temps. Faqarrabahu bi. Ah, j'ai le. Oui, mais je cherche le mot ajl. Il avait offert du veau. C'est bon le veau. Hein? Oui. Bi'ajlin samin, barakallahu fik. Bi'ajlin samin. Un veau bien gras. Je me donne un veau bien gras, moi. J'en fais un capsa exceptionnel. C'est-à-dire qu'il donnait à manger aux gens, mais il donnait de ce qu'il aimait, de la nourriture la plus noble. Et là, on va venir, quand on dit donner à manger, mais donner à manger quoi? D'accord? Quelles que soient les personnes. Et c'est des gens qui étaient de passage. C'est pas que nous, bon, on donne à manger quand il y a des gens importants, des gens riches, des gens aisés. Non. Ceux qui venaient, et tout le monde connaissait le karam, la générosité de Ibrahim alayhi salam. Donc c'est une qualité qui nous a été enseignée par Abul Anbiya et qui nous a été enseignée par notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et révélée par Allah Rabbul Izza, entre autres à travers ce verset wa yut'imuna at-ta'ama, donner à manger aux gens. Et permettez-moi un conseil très sincère. Je pense qu'à notre époque, la meilleure aumône qu'on peut faire, l'aumône la plus sincère et une aumône qu'on est sûr qui va atteindre son objectif, c'est de donner à manger aux gens. Parce qu'on donne de l'argent, qu'est-ce que, on sait pas. Personne peut payer sa facture ou payer, c'est bien aussi, mais je veux dire, ce qui est plus fort et que tu es sûr que ce sera bien utilisé, c'est que tu donnes à manger. D'accord? Donc là, on y arrive. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Et qui a été traduit par, malgré son amour, on a dit traduction un petit peu bancale. Ibn Kathir explique وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فِي حَالِ مُحَبَّتِهِمْ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas énormément mangé. C'est pas quelqu'un qui est immensément riche et qui peut se permettre d'offrir des repas. Si vous me permettez une énième parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses, c'est ce qui est très croustillant, mais par contre, il faut garder le fil, il ne faut pas oublier où est-ce qu'on était, je parle pour moi-même. Il y a une aumône qui existe depuis tout le temps, hein, mais qu'on voit de plus en plus à Makkah. Madina, j'ai vu moins, mais à Makkah, il y en a, mashallah, énormément, misfala, dans ces zones-là, des restaurants, je ne sais pas si vous avez déjà vu, où il y a une queue interminable de personnes. C'est souvent des travailleurs, des ouvriers, et on voit, c'est des gens qui sont un peu pauvres. Hein. Près d'un restaurant, sans exagérer, il peut y avoir 100 personnes qui attendent debout. Et c'est une queue qui n'avance pas du tout. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est quoi? Ils appellent ça sabil. Sabil, on connaît le mot sabil, il l'a. Puis sabil, là, c'est dans le chemin d'Allah. C'est des restaurants qui vendent de la nourriture avec l'argent de la sadaqa. C'est des gens qui font l'aumône. Je donne un exemple. Tu as l'intention de donner 100 rials de sadaqa. Plutôt que de donner à quelqu'un dans la rue, qui va acheter deux cartes de téléphone ou un nouveau portable pour son fils, ce qui n'est pas prioritaire, tu vas de ce restaurant, sans ostentation, je le dis, hein, avec beaucoup d'humilité, mais simimba ben nasiha, je le fais régulièrement. Chaque fois que là je vais à Makkah, je ne rate pas cette bonne action. 100 rial, 200, la quantité que tu veux. Même si des gens te donnent sadaqa, donnent, il n'y a rien de mieux. Tu montes, il y a un petit escalier, et tu vas voir le restaurateur, tu dis, sabilillah, 100 rial. Il te donne 10 tickets, le repas c'est à 10 rial. Ça fait combien? Ça fait 2,50 €. Une baguette de riz avec du poulet, mashallah. Et aussitôt que l'argent est versé, soit il te donne les baguettes, tu donnes toi-même, mais bon, ça n'arrive pas à gérer ça. Ils prennent la quantité de barquettes, commencent à donner aux gens. Mais quelle belle action! Quelle belle action! Que des gens, ils prennent, ils vont manger. Ça, c'est exceptionnel. Cette parenthèse est fermée. Il faudrait mettre ça en place. Hein, c'est magnifique. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, c'est celui qui n'a pas beaucoup à manger, qui a juste suffisamment pour lui, mais qui donne quand même. Et vous savez, toute action qui a pour base le sacrifice, je reprends, toute action qui a pour base le sacrifice est aimée et appréciée par Allah. Je recherche le hadith. Oui, le prophète dit أفضل الصدقات أن تصدق وأن تصحيح شحيح. Il a fait le hadith est long. La meilleure des aumônes, c'est quand tu donnes alors que toi-même tu as besoin et tu es dans une phase où tu cherches la richesse, ta'amul al-rina, wa tarsha al-fakr, et tu as peur de la pauvreté. Ce qui est un petit peu notre cas, à notre époque, avec la crise, avec, je répète, avec les 10% d'électricité, de facture d'électricité qui augmente, avec l'inflation, hein, la boîte de thon, elle est à combien maintenant? Tout est cher. Et très souvent, les fins du mois sont difficiles. C'est pareil pour tout le monde. Et donc, dans cette situation où tu crains, tu comptes, et tu vois combien il va rester jusqu'au 27, jusqu'au 28, et tout, et ainsi de suite, dans cette situation-là, et que tu souhaites la richesse, dans le sens où tu aimerais avoir plus, et tu crains la pauvreté, c'est là que tu donnes. Ça, c'est une action qui est, c'est la meilleure aumône. Par opposition, mais je pèse le mot par opposition, ça ne diminue pas les récompenses de l'aumône de la personne aisée et riche, mais par opposition à celui qui a beaucoup. Inch'Allah, quelqu'un, alhamdulillah, si quelqu'un est millionnaire, milliardaire, alhamdulillah, Allah lui a accordé. Quelqu'un qui, inch'Allah, a un compte en banque bien fourni, Pour lui donner 10 euros, une barquette de riz cantonné à quelqu'un, 9 euros, c'est rien du tout. C'est rien, il ne va même pas passer. Alors que nous, quand on sait que notre budget repas, par exemple, c'est, je dis un chiffre à 70 euros, budget repas par semaine, tu retires dedans 9 euros, tu as tiré un truc, ça fait quelque chose. Mais tu as cette conviction que le prophète m'a dit, en répétant 3 fois, je jure par Allah que le l'aumône ne diminue en rien la richesse. Il l'a dit à 3 reprises, je jure par Allah que la sadaqa ne diminue jamais votre subsistance et votre richesse. Même si mathématiquement, si mon budget était de 70 par semaine et que j'enlève 10, il reste 60, c'est pas vrai ça. Il n'y a pas moins. Allah va te donner baraka dans ce qui reste. D'accord ? Donc, ça c'est la meilleure aumône quand toi-même tu as besoin. Et puis, on reprend le principe de sacrifice. Allah aime quand on donne ce qui est bon. D'où le verset qu'on a cité la semaine dernière. Salim Ahmed, Rachid n'est pas venu ? Il envoie message, pose grande question, quand c'est le dar, il ne vient pas. L'antana, le birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Quand vous n'atteindrez jamais la piété, tant que, le sens approximatif du verset, tant que vous ne donnez pas de ce que vous aimez. Et Allah aime voir ce serviteur se sacrifier, donner ce qu'il aime. Et comme on a dit, je répète pas la même chose, le professeur Madina Munawwara nous disait que quand tu veux donner à manger à un pauvre ou un miskin, c'est pas quand il reste la nourriture. C'est pas le fond de la marmite, c'est avant que tu serves la nourriture à tes propres enfants, c'est là que tu prends le joli morceau de cuisse, de hanche ou le joli morceau d'épaule, si c'est cabri ou autre chose. C'est ça que tu donnes. Et c'est ça qu'Allah aime, donner de ce qu'on aime. Et ce qui est, après si on avait le temps, on aurait médité un peu plus ce verset, hein. L'antanal ou le birr. Al-birr, c'est la piété. Et la piété a été associée directement à l'aumône, mais donner ce qu'on aime. Comprenons que quand tu donnes ce que tu aimes, tu sacrifies pour Allah, Allah te fait atteindre le degré de la piété. La piété, c'est sur les tapis de prière, tu fais qiyamul layl, tu fais tout ça, mashallah. Mais la piété, c'est aussi donner de ce qu'on aime. Faire un sacrifice de ce qu'on aime. Il y a un autre tafsir qui est magnifique. Oui, ça c'est Allama Sa'di rahimahullah, qui dit que c'est quelqu'un qui a besoin de cette nourriture pour lui-même et sa famille, mais lakin qaddamu muhabbatallahi ala muhabbati nufusihim. Ils ont donné priorité à l'amour d'Allah sur leur propre nafs. Un mujahada, un sacrifice pour Allah Rabbul Izzah. On va terminer ce verset avec une histoire de Ibn Umar radiallahu anhuma. L'histoire est un peu longue, je vais juste raconter ce qui nous intéresse. Lorsque Ibn Umar radiallahu anhuma une fois était malade, il a envoyé sa fille, non, il a envoyé Safiya radiallahu anha, son épouse Safiya, acheter quelque chose. Il voulait manger des raisins. Il a donné un dirham, il a dit à son épouse de ramener du marché un dirham de raisins. Son épouse a pris, a acheté, et en revenant à la maison, il y a un pauvre qui a demandé à sa femme s'il y a quelque chose à manger. Ibn Umar a dit à son épouse, donne. Puis il a dit à sa femme ensuite, il a redonné un dirham, va acheter. Et ça s'est produit à 3 reprises. Ça, c'était l'esprit de sacrifice des sahaba et abna'u as-sahaba. Ça nous permet de comprendre l'importance de donner pour Allah. De donner pour Allah et de donner ce qu'on aime et de ce qu'on a besoin. C'est clair, inshallah, yut'imun at-ta'ama ala hubbihi, c'était le sens de hubbihi. On a ensuite donné à qui? Aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ibn Kathir dit que al-miskin, il a dit que la définition a déjà été citée à plusieurs reprises. Miskin, c'est celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin. Mais après, permettez-moi, quand on doit donner l'aumône, on n'a pas besoin de mener une enquête précise sur la personne. Bien sûr, pour la zakat, il faut savoir s'il est moustahiq ou non, ça c'est clair. Mais je veux dire qu'au-delà de la zakat, où on pose des questions, on essaie d'être sûr que la personne est méritante, quelqu'un tend la main, il n'y a pas à regarder comment il est habillé, il met Nike et Max, et ainsi de suite, et il demande la main, non. On donne. Parce que quand on donne, c'est, on va voir dans un instant, liwajhillah. On donne pour Allah. Et quand tu donnes, que ce soit quelqu'un qui est vraiment pauvre, ou quelqu'un qui a fait semblant, il voulait juste taxer un sandwich, ou et ainsi de suite, c'est pour ça que je préfère nettement qu'on donne à manger, qu'on donne des pièces. Parce qu'il n'y a rien de pire que de savoir que quelqu'un prend des pièces pour acheter des cigarettes. Combien le paquet de cigarettes, Salim Ahmed? Dis, je ne sais pas. Masha'Allah. Faites niyat. Ramadan arrive, que ceux qui fument, faites le niyat ferme d'arrêter. Son imam al-Shafi'i, imam Malik, imam Ahmed, fumer est haram complètement. D'accord? Donc, on y réfléchit. On demande à Allah de nous aider. Mettez vos patchs, faites un patch intégral s'il le faut, mais on essaie d'arrêter. Je ferme cette parenthèse. Donc, tu donnes des pièces, parfois la personne achète des cigarettes. Donc, je ne suis pas là pour ça. Ou tu donnes des pièces, après ça c'est plus compliqué, hein. C'est des gens qui vont acheter à boire, de l'alcool et tout, donc c'est encore plus compliqué. Donc quand on donne à manger, mashallah, on sait que c'est bon. Oui, il n'y a pas à regarder, oui, que ce soit une personne qui était vraiment dans le besoin ou qui voulait juste avoir un repas comme ça, tu as nourri une créature d'Allah. Et je ne dis pas un serviteur d'Allah, parce que ça peut être un croyant, quelqu'un qui a la ilaha illallah, ou quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Ça reste des créatures d'Allah. Et le prophète m'a dit que, par la métaphore, dans tout estomac humide, c'est-à-dire pour tout être vivant, c'est une métaphore mais ça passe pas en français, la traduction n'est pas adaptée, il y a d'autres métaphores, pour tout être vivant qu'on aide, il y a une récompense auprès d'Allah. D'accord? Donc, il n'y a pas à enquêter, et si je ne me trompe pas, il y a un hadith, hein, dans lequel il est stipulé que même si la personne que tu vois, la personne qui te demande, tu vois sur elle des bracelets en or, donne quand même. Donne quand même. Ça ne doit pas t'empêcher de donner l'aumône, parce que la personne est habillée de telle façon ou telle façon. Et si on a le temps, on va voir la puissance de innama nut'imukum liwajhillah. Ben, justement, on y est, innama nut'imukum. Mais avant, on complète al-miskin wa yatim. C'est quoi un yatim? Hein, yatim? Hein? Orphelin. Pauvre, orphelin, la veuve, tout ça, quand on évoque tout ça, ça rappelle un peu les valeurs des chevaliers, c'est chevaleresque. Mais avant que les chevaliers, pas les gens d'honneur, qu'on appelle ça, table ronde, je ne sais pas ça, bref, toutes ces qualités chevaleresques, ainsi de suite, avant qu'ils mettent tout ça en avant, notre dîn nous a déjà enseigné tout ça. Et à maintes reprises de le Coran, on retrouve le mot yatim. Wa'atul yatama, ou alors en mode jam' au pluriel. Wa'atul yatama, amwalahum. Et dans les hadiths concernant la veuve, la femme qui a perdu donc son mari, concernant les pauvres, ainsi de suite, c'est cité en permanence. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. L'entraide, la fraternité. Le fait de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Tu ne peux pas t'enfermer dans la masjid et mettre des œillères et dire que moi je fais Qiyam al-Layl toute la nuit, je jeûne toute la journée, je fais un Khatm al-Qur'an tous les trois jours, et Zikrullah, bas. Mais regarde pas à droite, mais regarde pas à gauche. Entre moi et moi, Allah. C'est pas mal, j'aimerais être comme ça, hein, pouvoir faire tout ça. Mais ton iman ne sera jamais complet tant que tu ne tends pas la main, tant que tu ne viens pas en aide à ceux qui tendent la main. Tant que tu n'aides pas ton prochain, tu ne réalises pas les objectifs cités dans le premier verset du Coran, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces paroles et d'intégrer l'importance de l'aumône, de donner à manger et de venir en aide à son prochain de façon générale. Naam. Miskin, on a vu, yatim, on a vu, oui, définition du yatim. En islam, le yatim, c'est l'enfant qui a perdu son père. Si le père est vivant et que la maman est décédée, islamiquement, ça ne s'appelle pas orphelin. Orphelin, c'est quand l'enfant a perdu son papa. Et pourquoi, selon toi? C'est quoi ton nom? Hein?
Salim.
Salim. Pourquoi?
C'est celui qui vient au besoin de la famille.
C'est là qu'on voit comment fonctionne la famille dans l'islam. Ça fait partie des versets qu'on ne développe pas trop au grand public, mais ça je l'explique souvent aux adolescents à la madrasa, quand on a de le Coran al-Rijal ou Qawwamuna 'ala an-Nisa, Quand Allah parle de la supériorité de l'homme par rapport à la femme, ce n'est nullement dans la valeur auprès d'Allah ou de la piété, aucunement. C'est qu'Allah a mis l'homme à un certain rang au-dessus de la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants. Quand on voit que dans l'islam, c'est une parenthèse, hein, que lors d'un décès, le garçon hérite deux fois la part d'une fille. Il y en a qui vont crier à l'injustice, religion archaïque, blablabla. C'est parce que la société est organisée de cette façon dans l'islam. Le mari doit assumer toutes les dépenses de la maison. Un homme, un père de famille, paie le loyer, les impôts, la taxe d'habitation, pour ceux qui payent encore les grandes fortunes, il y en a ici. Taxe d'habitation, le foncier. Non, non, les comptables, ils connaissent plus. Je sais juste ce que je paye, d'accord? La facture d'électricité, oui, même le 10%. La facture d'eau, le bidon de gaz, l'essence, pina kana, manger, boire. Et les courses maintenant, Allahu Akbar. Comment c'est cher? C'est hyper cher, d'accord? Il dit, oui, mais madame, il travaille. Il lui finit son salaire. Madame, il touche 2300 euros. C'est un salaire de femme, na'ouz billah, là aussi, hein, il y a une injustice de la société française. Pour un même travail, la femme touche souvent moins que l'homme. Ça, c'est... Comment est-ce qu'ils peuvent laisser ça? Avec tout le discours MeToo, YouToo, Salamat, ils laissent une fonctionnaire femme toucher moins. C'est toujours d'actualité. Alors que de lui dire, « Man amila salihan min zakarin ou untha wa huwa mu'minun » Pourquoi c'est moi qui dois lire les versets? L'égalité, la parité en islam. Celui qui a accompli une action, que ce soit un homme ou une femme, Allah lui promet, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme de la rétribution auprès d'Allah. Parenthèse fermée. Oui, la personne dit que oui, mais mon épouse, elle touche 2002, alors que pour un homme, ça aurait été 2008. Elle touche 2200 euros, mais si c'est moi qui paye tout, vous dites tout. Son linge. Linge, madame, c'est vous qui payez aussi. Linge des enfants, banane à la CAF, c'est toi qui payes. L'argent de la CAF, c'est pas à toi. L'argent de la CAF, c'est pour tes enfants. D'accord? C'est pour leurs besoins, l'école et tout. Bref, toutes les dépenses, c'est le mari, c'est le père de famille qui doit assumer. On comprend maintenant pourquoi est-ce que l'homme de l'héritage touche deux fois la part de la femme. Parce que c'est cohérent, il y a un équilibre. C'est pas parce que l'homme est supérieur, il gagne plus d'argent, aucunement. D'accord? Donc c'est des points que parfois il est bien de rappeler pour qu'on ait une vision plus large. Et quand on entend ce genre d'argument que le sexisme en islam et ainsi de suite, c'est totalement erroné. Il faut juste comprendre les circonstances de révélation et comment cela apporte un équilibre dans la société. Moi je connais des couples où ça joue des coudes, hein. Dit que bon, deux salaires, à moins c'est, moi il paye l'eau, on paye l'électricité. Il vaut mieux payer l'eau que l'électricité, d'accord? Les coûts, toi tu payes telles affaires, moi c'est, et ainsi de suite. Non, il n'y a pas ça. Khalas, on fait la parenthèse. Wa yatiman, et c'est pour ça qu'on avait dit que le yatim, c'est celui qui a perdu son père, islamiquement. Wa asira, al-asir, c'est traduit par le prisonnier. Naam, le prisonnier. Donner à manger à un prisonnier, c'est une bonne action. Et on comprend un prisonnier de toute confession. Prisonnier de guerre, donner à manger. On a un hadith, enfin, ça c'est cité par. C'est Ibn Kathir, Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il dit que le prophète, alayhi salat wa salam, amara ashabahu yoma badrin en yukrimu al-asara. On parle de quelle bataille? Badr. Ça rigolait pas à Badr? À Badr? Les mouchriquines sont venus pour tuer, exterminer l'islam. Et tuer en premier qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ensemble des sahaba. Les, j'allais dire le chiffre, les combien qui étaient présents? Badr combien? Non. Qui a dit ça?
313.
Non, 313. Contre 1000. Hein, à demander les musulmans.
Parce que c'était le musulman qui a fait moins que les Quraysh. C'était le Quraysh qui était plus que les musulmans.
On est tout à fait d'accord. Donc, au ben musulman, répète.
313.
313. On est d'accord avec le frère. 313 musulmans. Et si les Quraysh, les 1000, et c'était une armée professionnelle, hein, une armée équipée. Les musulmans étaient sortis, ils n'avaient aucune intention de livrer bataille. Donc, ils n'étaient pas équipés. S'ils avaient pu vaincre les 313 musulmans, qu'est-ce qu'ils auraient fait juste après, selon vous? Ils seraient allés à Madina, tuer ceux qui restent, femmes et enfants. Le niveau de cruauté des Quraysh, c'était terrible. Et donc, à l'issue de la bataille, il y a eu des prisonniers. Prisonniers de guerre, le prophète a dit aux sahaba d'aller faire ikram aux prisonniers de guerre. C'est des gens qui ont fait du mal au prophète sallam, à sa famille, qui ont tué des sahaba pendant 13 ans à Makkah. Et combien de temps à Madina? Hein, Badr, quelle année? L'an 2. Donc, c'est une haine qui dure depuis, un expert comptable, 15 ans. Une haine qui dure depuis 15 ans. Rendez-vous compte, votre ennemi acharné depuis 15 ans. C'est pas que votre ennemi acharné sur le voisin parce qu'il garde votre parking. Non. Ça s'appelle pas ennemi acharné, ça. C'est celui qui veut ta mort et la mort de tes enfants. Na'oud billah. Tu l'as enfin capturé. Le prophète du sahaba fait ikram. Donnez-leur à manger correctement. Grande leçon d'humanisme. On n'a rien à apprendre. On a à apprendre des autres cultures, oui, bien sûr. On n'a pas de leçons à recevoir sur le plan de piété, d'humanisme, de relations humaines des autres pratiques ou des autres, voilà, des autres aqwam. Ah, on va s'arrêter à la prochaine fois, Inch'Allah. Nous restait la conclusion, c'était pourquoi ils donnent à manger alors qu'ils ont besoin eux-mêmes. Spoiler. J'ai beaucoup de mal à prononcer les trucs en anglais. Spoiler ou spoiler, comme vous voulez. Pour la semaine prochaine, innama nut'imukum liwajhillah, on le fait pour Allah. Quand j'ai pas assez mais que je donne, c'est pour Allah. Et l'objectif, c'est de voir ses récompenses au jour de Qiyama. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que la personne soit vraiment pauvre ou pas vraiment, le but, c'est que tu as donné à quelqu'un. Et que le jour des comptes, Allah soit satisfait de toi. Qu'Allah t'accueille, t'accepte et qu'Allah te fait savoir qu'il est content de ton passage sur la terre. Ça, c'est une qualité essentielle qu'on doit avoir. En fait, à la fin de ces versets, on va énumérer les grandes qualités de foi. La grande qualité de foi qu'on a vue la semaine dernière, c'est la crainte de l'au-delà en permanence. Et là, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, toujours penser au moment où on retourne auprès d'Allah. Chaque action qu'on accomplit doit être en lien avec le regard d'Allah sur nous maintenant et comment il va nous accueillir le jour du Qiyama. Là, on est sur le droit chemin. Là, on avance posément et fermement. Ala sirat al-mustaqim. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte ce majlis. Nous donne la possibilité de comprendre ses paroles et que la lumière de ses paroles pénètre nos cœurs et qu'Allah nous donne la générosité et toutes ses qualités. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillah. Jazakallah.